Voilà le cinquième et dernier opus de l'aventure. Une exposition en forme de conclusion. Mais sûrement que les récits engendrés ne se tairont pas une fois passée la fin du cycle, alors que j'écoutais moi aussi. Cette exposition est différente de la première tout en étant similaire. On retrouve Zin Taylor, Eleanor et David Antin, on recroise Pierre Paulin, on se laisse embarquer par l'aventure de Simon Sterling. Les poulpes sont de retour avec Shimabuku, l'histoire de l'art est retraversée par Mariana Castillo de Bal, tandis que la poésie évanescente de David Horwitz nous emmène dans des sphères éthérées. Voilà le cinquième et dernier opus de l'aventure, une exposition en forme de conclusion. Mais sûrement que les récits engendrés ne se tairont pas une fois passée la fin du cycle, alors que j'écoutais moi aussi. Est-ce que les artistes se sont écoutés pendant cette année ? Les récits se sont-ils déplacés ? Ont-ils traversé le temps et l'espace ? Christian Zatrec est venu dialoguer avec son grand ami Jean Dupuis. Ce dernier était présent dans le premier opus, il est suggéré cette fois, mais largement présent à travers la figure même de Zatrec. Pour l'histoire, Christian Zatrec a en charge la Emily Harvey Foundation, sise dans l'ancien appartement de Jean Dupuis à New York sur Broadway Avenue. Son art quasi imperceptible est une résurgence fluxus à l'état brut. Il refuse d'en parler, mais je crois bien qu'il ne cesse pourtant de travailler, un peu comme Duchamp à la fin de sa vie qui prétendait ne rien faire et qui, secrètement, s'attelait à son œuvre finale, étant donné 1. La chute d'eau, 2. Le gaz d'éclairage. Ici, on ne sait pas exactement ce qu'il fera. Voilà le cinquième et dernier opus de l'aventure, une exposition en forme de conclusion. Mais sûrement que les récits engendrés ne se tairont pas, une fois passée la fin du cycle, alors que j'écoutais moi aussi. Sous un plexiglas, quatre documents annoncent avec 40 ans de retard une programmation de lecture et de performance, Soup and Tart. Dupuis m'avait raconté qu'il avait décidé, dans les années 70, de quitter sa galerie, de s'opposer à la marchandisation de l'art et au système capitaliste à la botte de la guerre au Vietnam. Pour gagner sa vie, il avait appris auprès d'un chef français à faire des soupes et des tartes, et il organisait des grandes soirées de lecture et de performance intitulées « Soup and Tart ». Sur une des affiches, une tarte aux pommes est vue dessus. Les soirées de performance avaient lieu sur une petite scène tournante que l'on avait vue lors de la première exposition, mais coincée par une échelle, et le tout continuait à tourner grâce à la révolution de la Terre autour du Soleil, ou de la Terre sur elle-même. Les documents, faits semble-t-il à la main, montrent l'urgence et la précarité de leur production. Mais que disent-ils de l'événement ? De même, les facsimilés des Sky Poems de David Antin ne sont que des instantanés d'événements passés. Les poèmes, réalisés par un avion déversant de la fumée derrière lui, sont quasi illisibles. Les lettres adressées par Antin avec les instructions à suivre sont des preuves de la rigueur de l'artiste et explicitent les détails techniques nécessaires à la réalisation d'une telle ambition. Mais que faire de nous, spectateurs en retard ? Ils nous révèlent le délai avec lequel nous appréhendons leur passage. Les voilà qui surgissent après coup, comme autant d'événements manqués. J'aimerais inhaler ces poèmes. Voilà le cinquième et dernier opus de l'aventure, une exposition en forme de conclusion. Mais sûrement que les récits engendrés ne se tairont pas une fois passée la fin du cycle, alors que j'écoutais moi aussi. Peut-être les documents sont-ils là pour donner forme à l'immatériel, soulever l'évanescence du temps sur un matériau transformé. Ainsi, lorsque David Horwitz cherche à nommer le travail de la mer et du sable sur le verre en nous présentant un ensemble de 5 posters typographiques en noir et blanc. Transcription textuelle des sons de la mer et des vagues. La densité des lettres reprend le bruit des vagues. Waves, large waves crashing, bubble on the surface of water, waves in distance, waves crashing on sand and returning into sea and sand. Des onomatopées comme la promesse d'une nuit d'été en Californie. Mais la typographie sérif avec empattement comme le papier blanc cadré par une ligne noire nous laisse toutefois à distance de ce doux bruit si souvent fantasmé. Au-dessus d'eux, des étagères en bois supportent 3 flacons en verre, trouvés et ressoufflés. Tubulaires ou en boule, resserrées, cabossées, fragiles, trop hautes mais comme fragmentaires tout en étant complètes, fusionnées, brisées. Leur manque de qualité, leur grande précarité nous les rend touchantes. elles ne sont pas sans rappeler celles en sucre de Julien Bismuth, qui fondait au fur et à mesure de leur exposition. Voilà le cinquième et dernier opus de l'aventure, une exposition en forme de conclusion. Mais sûrement que les récits engendrés ne se tairont pas une fois passée la fin du cycle, alors que j'écoutais moi aussi. Autre document qui cherche à ressusciter un fantôme du passé, les Oramisques de Daphné Oram. Ils nous font découvrir les machines sonores qui mangent la pellicule de 35 mm sur laquelle l'artiste a dessiné. Elle est là avec son chat, des pages de schémas électriques et de partitions nous invitent à comprendre. Au casque, il est évident que ce qui est donné à entendre a été émis dans le passé. Des grésillements s'ajoutent à l'environnement sonore contemplatif. Le son provient de loin, en souvenir de ceux de Delia Derbyshire. Surgissement du passé dans le présent, il traverse le temps à 300 000 km/s. Au même moment, le vinyle de Pierre Paulin reste immobile, tandis que Mariana Castillo de Bal ressuscite un parchemin préhispanique en faisant s'écouler le dessin en vidéo comme un rouleau que l'on déroule au rythme d'une marche après un repas dominical. Les symboles d'une narration possible déroulent, une barque, des roseaux, une carte au trésor, des passages abstraits, des manques, alors que l'histoire du manuscrit nous est contée. Ramené par les colons en Europe, offert à des enfants pour qu'ils jouent avec, c'est aujourd'hui un document précieux pour la culture amérindienne. Voilà le cinquième et dernier opus de l'aventure, une exposition en forme de conclusion. Mais sûrement que les récits engendrés ne se tairont pas une fois passée la fin du cycle, alors que j'écoutais moi aussi. Alors voilà, Zine Taylor s'est à nouveau emparé du pignon Est. D'un large trait dont les extrémités s'arrêtent à angle droit, il est venu déployer un immense dessin qui, malgré sa dimension, laisse penser à une improvisation. Un tapis, un flamant rose, une plante en pot, une autre suspendue, une théière qui fume. Sur le tapis, des objets se superposent, une tête de statuette Inca semble se démarquer. Un poster affiche un serpent, une fenêtre ronde ouvre à l'extérieur. La quiétude d'un intérieur joliment décoré offre la promesse d'un avenir sans trouble. Des courbes suspendues semblent faire écho aux éléments sculpturaux agrandis de l'exposition précédente de Felicia Atkinson. Une courbe est rayée dans le sens de la longueur, elle offre plusieurs facettes noires ou blanches. Un point coloré y est disposé en son creux, comme une orange, ou même une orange violette. Il s'agit là peut-être du décor venu accueillir les œuvres, qui, tels les personnages d'une pièce de théâtre, vont tout à coup prendre vie et nous raconter leurs histoires. Mobiles, mouvantes et un peu muettes, deux baffles leur donnent la parole. Les voilà qui nous content une histoire du point sur une ambiance sonore cosmico-galactique. Tring, ting, poum. Une histoire abstraite de l'abstraction. Mais ce point, est-ce que c'est celui qui vient clore le récit ou celui qui, répété, suppose qu'il continue ? Voilà le cinquième et dernier opus de l'aventure, une exposition en forme de conclusion. Mais sûrement que les récits engendrés ne se tairont pas, une fois passée la fin du cycle, alors que j'écoutais moi aussi. Certaines œuvres du premier opus étaient comme des promesses d'autres à venir, mais elles n'ont pas toujours été tenues. Elles sont devenues tout autres, des énoncés d'œuvres potentielles, des imaginaires déployés. Qu'est devenu le film de Virginie Yassef, annoncé dans l'affiche exposée un an auparavant ? Un décor de cinéma, deux énormes pattes de dinosaures tranchées nettes qui perdent leurs griffes en alternance. J'ai cru que les dalles antidérapantes de Gerlach & Kopp avaient glissé. Le tiroir caisse a sonné, non ? Dessus, dessous, renversé ? retourner aussi les cartes d'Éléonore Antin. Elle a déchaussé ses bottes, celles qu'elle avait alignées dans des paysages, éditées en cartes postales et envoyées à des amis. Mais cette fois, c'est l'envers des cartes qui nous sont données à voir. Certaines ont été refusées par la poste et retournées à l'envoyeur, marquées d'un délicieux et tellement fluxus tampon d'un index pointé. Devant la liste des destinataires, on se plaît à imaginer le travail d'enquête nécessaire à la constitution de cette collection. Cette enquête, c'est aussi celle de Shimabuku, qui collectionnait, rappelez-vous, les cailloux que l'on retrouve entre les tentacules des poulpes lorsqu'ils sont pêchés. Cette fois-ci, comme pour les remercier, l'artiste a décidé de faire découvrir la Terre à l'un d'entre eux, qu'il a choisi. Simon Starling, quant à lui, s'embarque sur la mer morte, d'un bleu turquoise laiteux et huileux, sur un canoë en magnésium. Sans eau ni sac à dos, il part rejoindre Israël depuis la Jordanie, suivi par un drone, et rejoue l'impossible expédition dans une attente irrésolue. Ce n'est pas du tout le dernier opus de l'aventure. Celle-ci s'envole à New York et Los Angeles. Elle se déploie lors d'événements à venir. Une exposition qui n'est sûrement pas une conclusion. Les récits engendrés ne se tairont pas, une fois passée la fin du cycle, alors que j'écoutais moi aussi. Il s'agit moins d'une clôture que l'assurance d'en parler encore, comme une rumeur, un murmure. Nous devons maintenant laisser le soin de notre histoire à l'oralité. Le travail n'est actualisé que dans sa répétition et dans sa transmission. Par le récit ou l'imitation, son acte devient une expérience communicative. Quant à moi, je vais me taire. Si les œuvres interpellent, ce sont elles qui ont le plus à dire.